Veux-tu que nous cherchions quelque moyen de lui prouver évidemment qu'il se trompe ? Très volontiers. Si, pour faire valoir les avantages de la justice, nous opposons au discours de Trasimaque un autre discours, et lui encore un autre après nous, lequel sera suivi d'autant de répliques, il nous faudra compter et peser les avantages de part et d'autre, et il nous faudra encore des juges pour prononcer. Au lieu qu'en convenant à l'amiable de ce qui nous paraîtra vrai ou faux, comme nous faisions tout à l'heure, nous serons à la fois avocats et juges. Cela est vrai. Laquelle de ces deux méthodes te plaît davantage? La seconde. Réponds-moi donc, Trasimaque. Tu prétends que la parfaite injustice est plus avantageuse que la parfaite justice. Oui, dit Trasimaque. Et j'en ai dit les raisons. Fort bien. Mais que penses-tu de ces deux choses? L'une est-elle une vertu, l'autre un vice? Sans doute. Et tu donnes le nom de vertu à la justice, celui de vice à l'injustice? Apparemment, mon doux ami, moi qui pense que l'injustice est utile et que la justice ne l'est pas. Comment dis-tu donc? Tout le contraire. Quoi? La justice est un vice. Non, c'est une folie généreuse. Et n'appelles-tu pas l'injustice méchanceté? Non, c'est prudence. Les hommes injustes semblent-ils sages et habiles? Oui, ceux qui sont injustes parfaitement et assez puissants pour mettre sous leur joug des états et des peuples. Tu crois peut-être que je voulais parler des coupeurs de bourse? Ce n'est pas que ce métier n'ait aussi ses avantages, tant qu'on l'exerce avec impunité. Mais ces avantages ne sont rien en comparaison des autres. Mais je conçois très bien ta pensée. Mais ce qui me confond, c'est que tu appelles l'injustice vertu et sagesse, et que tu mettes la justice dans les qualités contraires. C'est néanmoins ce que je fais. Cela est bien dur, et je ne sais plus comment m'y prendre pour te combattre. Si tu disais simplement, comme quelques-uns, que l'injustice est utile, mais que c'est un vice et qu'elle est honteuse en soi, nous pourrions, pour te répondre, en appeler à l'opinion générale. Mais après avoir osé appeler l'injustice vertu et sagesse, tu ne balanceras pas sans doute à lui attribuer aussi la beauté, la force et tous les autres caractères que nous donnons à la justice. On ne peut pas mieux deviner. Il ne faut pas que je me rebute dans cet examen tant que j'aurai lieu de croire que tu parles sérieusement. Car il me paraît, Trasimaque, que ce n'est point une raillerie de ta part, et que tu penses comme tu dis. Que je pense ou non comme je dis, que t'importe ? Réfute-moi, seulement. Peu m'importe, sans doute. Mais tâche de répondre encore à cette question. L'homme juste, voudrait-il l'emporter en quelque chose sur l'homme juste ? Jamais, autrement il ne serait ni si commode, ni si fou que je le suppose. Quoi, pas même pour la justice? Pas même pour cela. Voudrait-il du moins l'emporter sur l'homme injuste? Et croirait-il juste de le faire? Il le croirait juste, il le voudrait même. Mais il ferait d'inutiles efforts. C'est pas là ce que je veux savoir. Je te demande si le juste n'aurait ni la prétention ni la volonté de l'emporter sur le juste, mais seulement sur l'homme injuste. Oui, le juste est ainsi disposé, Et l'homme injuste, voudrait-il l'emporter sur le juste pour l'injustice ? Bah, assurément, puisqu'il veut l'emporter sur tout le monde. Il voudra donc aussi l'emporter sur l'homme injuste dans l'injustice, et il s'efforcera de l'emporter sur tous. Sans contredit, Socrate. Ainsi, le juste, disons-nous, ne veut pas l'emporter sur son semblable, mais sur son contraire, au lieu que l'homme injuste veut l'emporter sur l'un et sur l'autre. Fort bien dit. L'homme injuste est intelligent et habile, et le juste n'est ni l'un ni l'autre. Fort bien encore. L'homme injuste ressemble donc à l'homme intelligent et à l'homme habile, et le juste ne leur ressemble point. Oui, celui qui est d'une façon ressemble à ceux qui sont tels qu'il est, et celui qui n'est pas de cette façon ne leur ressemble pas. Ah, merveille ! Chacun d'eux est donc tel que ceux auxquels il ressemble. Comment serait-il autrement ? Soit, Thrasymaque, ne dis-tu pas d'un homme qu'il est musicien, d'un autre qu'il ne l'est pas ? Oui. Lequel des deux est intelligent ? Lequel ne l'est pas ? Le musicien est intelligent, l'autre ne l'est pas. L'un est habile, puisqu'il est intelligent, l'autre ne l'est pas, par la raison contraire. Nécessairement. N'est-ce pas la même chose à l'égard du médecin ? La même chose. Crois-tu qu'un musicien qui monte sa lyre voulut ou prétendit, quand il s'agit de tendre ou de lâcher les cordes de son instrument, l'emporter sur un musicien ? Non. Et sur un ignorant en musique ? Oui, certes. Et un médecin, voudrait-il, dans la prescription du boire et du manger, l'emporter sur un médecin ou sur son art même ? Non. Et sur qui n'est pas médecin ? Oui. Voici, à l'égard de quelque science que ce soit, il te semble que celui qui la sait veuille l'emporter sur celui qui la sait aussi, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, ou s'il veut dire et faire la même chose que son semblable dans les mêmes rencontres. Et il pourrait bien en être, comme tu viens de le dire. L'ignorant ne veut-il pas au contraire l'emporter sur le savant et sur l'ignorant ? Ouais, probablement. Mais le savant est sage. Oui. Et l'homme sage est habile. Oui. Ainsi, celui qui est habile et sage ne veut pas l'emporter sur son semblable, mais sur son contraire. À ce qu'il paraît. Au lieu que celui qui est inhabile et ignorant veut l'emporter sur l'un et sur l'autre. Il est vrai. Et n'es-tu pas convenu, Thrasymaque, que l'homme injuste veut l'emporter sur son semblable et sur son contraire ? Je l'ai dit. Et que le juste ne veut point l'emporter sur son semblable, mais sur son contraire ? Oui. Mais le juste ressemble à l'homme sage et habile, et l'homme injuste à celui qui est inhabile et ignorant. Cela peut être, mais nous sommes convenus qu'ils étaient l'un et l'autre tels que ceux à qui ils ressemblaient. Nous en sommes convenus, il est donc évident que le juste est sage et habile, et l'injuste, ignorant et inhabile. Thrasymaque convainc de tout cela, mais non pas aussi aisément que je le raconte. Il me fallut lui arracher ses aveux. Il suait à grosses gouttes, d'autant plus qu'il faisait grand chaud. Et pour la première fois, je vis rougir Thrasymaque. Après que nous fûmes tombés d'accord que la justice était vertu et habileté, et l'injustice vice et ignorance, je lui dis : « Allons, voilà un point décidé. Mais nous avions dit que l'injustice a aussi la force en partage. Ne t'en souvient-il pas, Thrasymaque ?
Je m'en souviens, dit-il, mais je ne suis pas content de ce que tu viens de dire. Et j'ai de quoi y répondre.
Je sais bien que si j'ouvre seulement la bouche, tu diras que je fais une harangue. Laisse-moi donc parler à ma guise. Ou si tu veux absolument interroger, fais-le. Je dirai oui à toutes tes questions, comme on fait aux contes de vieilles femmes. Et il me suffira d'un signe de tête pour approuver ou pour rejeter.
Non, ne dis rien, je te prie, contre ta pensée.
Puisque tu ne veux pas me laisser parler, je ferai ce qu'il te plaira. Que veux-tu davantage ?
Rien. Si tu veux bien répondre, comme je viens de t'en prier, fais-le. Je vais t'interroger.
Interroge !
Je te demande donc, pour reprendre la discussion où nous l'avions laissée, ce que c'est que la justice comparée à l'injustice. Il a été dit, ce me semble, que celle-ci est plus forte et plus puissante. Mais maintenant, si la justice est habileté et vertu, il sera facile de montrer qu'elle est plus forte que l'injustice. Et il n'est personne qui n'en convienne, puisque l'injustice est ignorance. Mais je ne veux pas trancher ainsi la question d'un seul coup. Considérons-la sous cet autre point de vue. N'y a-t-il pas des États qui soient injustes, qui tâchent d'asservir, et qui aient même asservi d'autres États, et en tiennent plusieurs en esclavage ?
Sans doute ! Mais cela n'appartient qu'à un État très bien gouverné, et qui sait être injuste en toute perfection.
Oui, c'est là ta pensée, je le sais. Ce que je voudrais savoir, c'est si un État, qui se rend maître d'un autre État, peut venir à bout de cette entreprise sans employer la justice, ou s'il sera contraint d'y avoir recours.
Si la justice est habileté, comme tu le disais tout à l'heure, il faudra que cet État y ait recours. Mais si elle est telle que je le disais, il emploiera l'injustice.
Je suis charmé, Thrasymaque, que tu répondes si bien, et autrement que par des signes de tête.
C'est pour t'obliger.
J'en suis reconnaissant.
Fais-moi encore la grâce de me dire, hein, si un État, une armée, une troupe de brigands, de voleurs, ou toute autre société de ce genre, pourrait réussir dans ces entreprises injustes si les membres qui la composent violaient les uns à l'égard des autres les règles de la justice.
Non, elle ne le pourrait pas.
Et s'ils les observaient ?
Elle le pourrait.
N'est-ce point parce que l'injustice ferait naître entre eux des séditions, des haines et des combats, au lieu que la justice y entretiendrait la paix et la concorde ?
Soit, pour ne pas avoir de démêlés avec toi.
On ne peut mieux, mon cher.
Mais si c'est le propre de l'injustice d'engendrer des haines et des dissensions partout où elle se trouve, elle produira sans doute le même effet parmi les hommes libres ou esclaves, et les mettra dans l'impuissance de rien entreprendre en commun.
Oui.
Et si elle se trouve en deux hommes, ne seront-ils pas toujours en dissension et en guerre, et ne se haïront-ils pas mutuellement comme ils haïssent les justes ?
Ils le feront.
Mais quoi ?
Pour ne se trouver que dans un seul homme, l'injustice perdra-t-elle sa propriété, ou bien la conservera-t-elle ?
Qu'elle la conserve à la bonne heure !
Telle est donc la nature de l'injustice. Qu'elle se rencontre dans un État, ou dans une armée, ou dans quelque autre société,
de la mettre d'abord dans une impuissance absolue de ne rien entreprendre par les querelles et les séditions qu'elle y excite, et ensuite de la rendre ennemie et d'elle-même et de tous ceux qui lui sont contraires, c'est-à-dire des hommes justes. N'est-il pas vrai ?
Oui.
Ne se trouva-t-elle que dans un seul homme, elle produira les mêmes effets. Elle le mettra d'abord dans l'impossibilité de rien faire par les séditions qu'elle excitera dans son âme et par l'opposition continuelle où il sera avec lui-même. Ensuite, elle le rendra son propre ennemi et celui de tous les justes. N'est-ce pas ?
Soit.
Mais les dieux, ne sont-ils pas justes aussi ?
Supposons-le.
L'homme injuste sera donc l'ennemi des dieux, et le juste en sera l'ami.
Courage, Socrate, régale-toi de tes discours. Je ne te contredirai pas, pour ne pas me brouiller avec ceux qui nous écoutent.
Eh bien, prolonge pour moi la joie du festin en continuant à répondre. Nous venons de voir que les hommes justes sont meilleurs, plus habiles et plus forts que les hommes injustes, que ceux-ci ne peuvent rien faire de concert. Et c'était une supposition gratuite que de supposer que des gens injustes aient jamais rien fait de considérable de concert et en commun. Car s'ils eussent été tout à fait injustes, ils ne se seraient pas épargnés les uns les autres. Évidemment, il faut qu'il y ait eu en eux un reste de justice qui les ait empêchés d'être injustes entre eux, dans le temps qu'ils l'étaient envers les autres, et qui les a fait venir à bout de leur dessein. À la vérité, c'est l'injustice qui leur avait fait former des entreprises criminelles. Mais elle ne les avait rendus méchants qu'à demi, car ceux qui sont entièrement méchants et injustes sont, par cela même, dans une impuissance absolue de rien faire. C'est ainsi que la chose est réellement, et non pas comme tu le disais tout d'abord. Il nous reste à examiner si le sort du juste est meilleur et plus heureux que celui de l'injuste. Ce que nous venons de dire me le ferait croire. Mais examinons la chose plus à fond. Aussi bien, il n'est pas ici question d'une bagatelle, mais de ce qui doit faire la règle de notre vie. Examine donc. C'est ce que je vais faire. Réponds-moi.